et si brèves, les plus beaux projets de la vie sont ceux où la vie même prend naissance avec nous en cet instant de rêve. Quand mes jours coulent dans tes jours comme un fleuve qui gronde, quand mes jours coulent dans tes jours comme un fleuve qui gronde. Comment éteindre le feu qui brûle au fond de mes yeux, au fond de mon cœur, comme un grand bonheur, ne plus rien retenir et dans un dernier soupir oublier autant d'années à ne plus respirer. Désormais, tout me semble écrit comme la fin du monde, le plus bel instant de la mort, celui où la vie même prend au fond de nos corps ce sang qui nous inonde. Quand mes jours coulent dans tes jours comme un fleuve qui gronde, quand mes jours coulent dans tes jours.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, si l'air est net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
La rage. La rage. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, je reçois trois intervenants, une fois n'est pas coutume, et nous allons parler d'art et de biennale. Donc je reçois André, Suzanne et Alexandre pour présenter l'ENDA, c'est-à-dire l'École Nationale d'Art de Paris. Suzanne, ma chérie, les auditeurs fidèles vont reconnaître ta voix, magnifique surtout, que à Noël, tu nous as fait l'honneur de chanter du Gaston Couté.
Oui.
Et on peut réécouter l'émission sur le site de Radio Libertaire en podcast, comme sur le site du groupe Louise Michel. Et tu étais accompagnée de Bruno Daraki et de Jeanne. Voilà. Bien. Alors André, si tu pouvais te présenter, s'il te plaît.
André Guibou, méditerranéen et artiste, comme on dit. Enfin, j'ai comme on dit parce que c'est pas très péjoratif, mais bon, bref, c'est une recherche sérieuse et personnelle. Voilà, en tout cas.
D'accord. Alexandre, s'il te plaît, présente-toi.
Donc, Alexandre Gurita, artiste en visuel, directeur de l'École nationale d'art de Paris et de la Biennale de Paris, créée en 1959 par le ministre de la Culture, par André Malraux notamment.
Mm-hmm. Alors justement, on va revenir sur cette école qui est paradoxale. Je vais expliquer pourquoi je dis le mot paradoxal. Par sa création justement et par une querelle. Si tu pouvais revenir sur la genèse de tout ceci, Alexandre.
De l'École nationale d'art de Paris, de l'ENDA.
Oui.
Oui, le nom initial était IHOAP, Institut des hautes études en arts plastiques, école qui a été, disons, voulue par Jacques Chirac, en fait, qui a été créé par Jacques Chirac et Pontus Sultan, co-concepteur du Centre Pompidou, avec des artistes d'État tels que Daniel Buren ou d'autres. Et effectivement, donc, disons que ma pratique artistique consiste dans le vol des institutions. Je vole des institutions légalement ou allégalement, donc pas illégalement, dans l'idée de les transformer en institutions critiques de changement. Et donc, moi j'appelle ça de la captation institutionnelle, c'est une forme d'art en visuel. Et donc j'ai capté cet institut qui était tombé dans le domaine public dans les années 96, donc qui a été abandonné par la ville de Paris, dans l'idée de créer une école d'art totalement révolutionnaire, qui, avec des nouvelles méthodologies et des nouveaux contenus. En fait, mon idée initiale, c'était de dire que l'art ne peut pas être changé si on ne change pas son enseignement et son économie.
Wow.
Et donc, cette école, elle a été créée comme un espace d'enseignement d'un nouveau genre au service d'artistes, mais pas seulement d'artistes, parce qu'on peut ne pas forcément être artiste et intégrer l'ENDA, dans l'idée de, disons, d'échanger, d'enseigner des nouvelles formes d'art. C'est un lieu d'ouverture, en fait. C'est un lieu, un contexte qui permet de formuler des projets artistiques singuliers et de, disons, de rompre avec l'idéologie de l'art, hein, qui dit que s'il n'y a pas d'art visuel, il n'y a pas d'art du tout. Nous, on dit, en fait, au sein de l'ENDA, on dit que l'art visuel, c'est pas tout l'art, mais uniquement une partie, mais qu'il y a d'autres formes d'art, hein, et ces formes d'art, on peut les qualifier d'art visuel.
Alors, André est représentatif de l'école. Alors, André, oui. Quelle est ta pratique artistique?
Ouh, elle est multiple.
Ah ben justement.
Moi, j'ai une longue pratique dans l'espace public, des gestes plutôt éphémères, furtifs, anonymes, et puis petit à petit, ça s'est dirigé en deux segments, pour l'instant, qui en font pas qu'un seul, mais qui sont un qui s'est orienté plutôt vers quelque chose de spirituel parce qu'il a été accompagné par un deuil très difficile, et une pratique après directement dans le social. Mm-hmm. Et tout ceci a toujours été dans une problématisation aussi sur le rapport aux images.
D'accord.
De manière plus globale. Après, je pourrais plus approfondir, mais...
Bien. Suzanne, c'est toi qui nous as proposé cette émission.
Oui.
Alors, pourquoi l'ENDA?
Écoute, il se trouve que je me suis lancée dans l'aventure cette année de l'ENDA, un peu par hasard, parce que j'ai rencontré Alexandre juste après avoir joué mon Gaston Couté, qui était venu m'écouter et qui m'a parlé de l'ENDA. Et quand j'ai lu un peu les propositions de l'ENDA, je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais envie de tenter pour un projet que j'avais depuis longtemps et que je savais pas trop où mettre dans ma pratique artistique, qui était de pouvoir faire une forme de diagnostic artistique d'établissement, diagnostic artistique et citoyen d'établissement, qui serait en fait l'objet pour essayer de travailler sur le confort dans les lieux de vie, les lieux de dans toutes les formes d'organisation. Donc voilà, du coup j'essaye de mettre ça en place via peut-être la création d'un label. D'un label du confort par l'art. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'ENDA, on peut développer des choses qui sont un peu à côté de ce qu'on développe habituellement dans les arts plastiques ou dans les arts du spectacle vivant. On peut développer des projets qui sont un peu hors normes. Et ben j'essaye de m'y atteler, et c'est vrai que ben c'est très enthousiasmant pour l'instant, quoi. Voilà.
Alors André, je te redonne la parole, oui. Parce que comme tu es artiste, Suzanne prendra la parole ensuite. Je voudrais que tu expliques comment tu as pu rentrer à Landau, parce qu'il y a des critères d'éligibilité.
Oui. Alors il y a une lettre de motivation. Il n'y a pas du tout de dossier.
C'est ça.
Alexandre n'a jamais reçu un PDF avec mes travaux.
Ça, c'est révolutionnaire.
Oui.
Voilà. Ensuite, comment tu as réussi à t'intégrer dans tout ce qui est déroulement, le fonctionnement? Explique un peu comment on rentre à l'ENDA et comment on s'y coule dans le moule, si j'ose dire. Si tant est qu'il y ait un moule à l'ENDA.
Dans le moule, je sais pas. En tout cas, moi, j'y vais pas en étant étudiant, je crois. Moi, j'y vais parce qu'en fait, c'est sûrement la chose la plus intéressante qui se passe dans l'art aujourd'hui. Et que je sais pas qu'est-ce que peut devenir l'art invisuel dans le futur, parce que ça ouvre des potentiels, je pense, qui sont assez révolutionnaires. Mm-hmm. Parce que ça renverse les manières de produire, enfin, ou de faire de l'art, quoi. Puisqu'on est sur une abolition de l'objet d'art en soi, donc de se dire on a fini une production et en fait c'est un objet qu'on présente, on est dans des rapports d'expérience, de relationnel, etc. Et peut-être je reviens sur l'école, comment je le vis.
Oui, s'il te plaît.
Mais plutôt bien.
Alexandre est content. Oui. Alors Alexandre, il vient de prononcer deux termes que je voudrais que tu explicites, de la même manière que tu l'as explicité lorsqu'on a pris un café avant de venir à l'émission. L'art invisuel, qu'est-ce que c'est ?
Enfin, l'art invisuel, c'est un genre d'art à part entière, qui a émergé dans les années 83 à Bruxelles, à travers des artistes tels que Gary Bigot, qui est parmi les pionniers de l'art invisuel, mais aussi Sylvain Soussan à Paris, ou Bernard Brunon à Houston aux États-Unis, ou encore François Deck à Grenoble, qui sont, à mon sens, les artistes qui ont été insatisfaits de l'absence de créativité que l'art visuel leur proposait, parce que tout a été fait dans l'art visuel. Mm-hmm. Et donc ils se sont affranchis des limites de l'art visuel pour proposer d'autres formats d'art, d'autres choses. Et donc si je peux définir en quelques mots l'art invisuel, ce serait plutôt une dédéfinition. C'est-à-dire, mm-hmm, l'art invisuel est un art qui existe autrement que sous forme d'œuvres d'art matérielles ou immatérielles.
D'accord.
Ensuite, c'est à chacun de définir sa propre forme d'art.
Tu m'as dit que c'était l'anarchie appliquée à l'art.
Oui, c'est l'anarchie appliquée à l'art parce qu'en fait, moi je ne suis pas un spécialiste de l'anarchie, j'aurais adoré d'être un spécialiste de l'anarchie, mais...
Ça n'existe pas.
voilà, en plus. Ça va, j'ai rien raté alors. Mais en fait, l'anarchie, ce n'est pas tout casser,
non.
C'est faire autrement.
Voilà.
Et donc à l'ENDA, il y a des artistes, et pas forcément il n'y a pas que des artistes, hein, donc qui pensent et font l'art autrement. C'est ça en fait, je pense que l'art est une négociation avec l'inconnu, et non pas la personnalisation des formes d'art déjà existantes. C'est-à-dire si quelqu'un fait aujourd'hui un ready-made, mais bon, ok, il y a 30 millions d'artistes qui le font. Mmh. Et alors, en fait, c'est pas ça l'art. En fait, l'art, c'est, disons, formuler son propre format artistique, sa propre forme d'art, qui soit l'expression, disons, la plus aboutie ou la moins incomplète de sa propre subjectivité, de sa propre singularité. C'est-à-dire que potentiellement, chaque individu peut être un artiste. Et là, il y a, disons, c'est un potentiel même parfois dangereux de l'art invisuel, parce que l'art invisuel permet en fait de formuler un projet de vie et professionnel et de construire sa propre liberté. Et lorsqu'on construit sa liberté, on la structure, disons, ça peut poser des problèmes au système institué.
D'accord. Alors, c'est pour ça que tu es allé chercher une artiste en liberté, Suzanne.
Exactement.
Alors
exact. Mais Linda a la chance d'avoir des praticiens, comme nous, on les appelle, tels qu'André, Suzanne ou Simon Deca, par exemple. Je vais juste citer son projet, par exemple. Si, là, il y a aujourd'hui un article qui est sorti dans la Revue de Paris, qui parle, c'est l'historien de l'art Éric Mont-Saint-Jean, spécialiste en avant-garde du 20e siècle et des formes d'art les plus radicales d'aujourd'hui. Et lui, en fait, il a une méthodologie qui permet d'identifier, en fait, ou d'observer comment une activité humaine se transforme en art. Par exemple, l'art vidéo, la photo, le mime n'étaient pas considérés comme des formes d'art. Et petit à petit, à des époques, la vidéo, par exemple, et la photo ont été considérées comme des formes d'art dans les années 60-65. Mais Simon Deca, par exemple, son projet de session à l'ENDA qu'on développe, il s'agit de transformer ce qu'on appelle un défilé de mode en forme d'art. Est-ce qu'un défilé de mode peut être une forme d'art à part entière?
Ah.
Voilà. Ça, c'est l'idée, c'est de re-questionner les choses existantes, en fait, qui sont tenues par des normes, et de voir si on peut briser par endroits ces règles pour avoir des nouvelles perspectives.
Alors, quelles sont les perspectives que tu as vues dans Suzanne, Alexandre?
Ben, en fait, dès que Suzanne... donc, à l'ENDA, il y a des méthodologies, assez précises. Donc, par exemple, chaque praticien ou praticienne doit formuler un projet de session jusqu'à la fin juin, quand cette session finisse. Et donc, le projet de Suzanne, je peux donner le nom ou c'est encore confidentiel?
Non, vas-y.
Okay. Qui s'intitule « Confortari ». Donc, elle a bien dit, Suzanne, avant. Il s'agit de créer un label de bien-être au sein de structures, de formes d'organisation. Ça peut être des institutions, des entreprises. Donc c'est un projet tout simplement génial et navré de j'aime pas trop le mot, mais il faut l'utiliser, révolutionnaire un peu, parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, la société entière se pose des questions sur la réconciliation entre le lieu de travail et la vie personnel des employés. Donc comment est-ce qu'on des employés, des ouvriers peuvent considérer leur travail, disons, en harmonie avec leur propre vie et non pas d'une manière conflictuelle. En fait. On voit qu'il y a plein de problèmes dans des entreprises, même des gens qui se suicident.
Oui.
En fait, les entreprises en vendent des salles de sport, etc. Mais je pense que là, le label Confortari, c'est quelque chose qui peut vraiment participer à une forme d'émancipation sociale. Et donc c'est un projet tout simplement génial, et on verra la suite les mois prochains.
Alors Suzanne, ma chérie, je reviens vers toi. Confortari, comment t'es venue l'idée de ce projet?
Alors en fait, c'est en observant un institut médico-éducatif, un IME, alors que j'intervenais là-bas en tant qu'artiste musicienne. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait transformer, ne serait-ce que par la présence artistique, dans les rapports qu'entretenaient les usagers, soit les enfants qui étaient accueillis, soit les travailleurs qu'entretenaient ces usagers à leur structure, en modifiant des petites choses. Qui pouvait être en fait qui allait venir soutenir le courage de tout à chacun. Et en fait, je me suis rendu compte que le confortari, ça vient de cette association de mots là, soutenir le courage. Et c'est pas encore très défini tout ça, hein. C'est juste une idée, donc je sais pas encore comment je vais mettre en place cette idée de label, mais j'aimerais vraiment pouvoir généraliser en fait la pratique de l'art au sein du travail, au sein des structures de travail, parce que on se rend compte que ça détend les rapports, que ça désoriente un peu les rapports de force et de pouvoir aussi qu'il peut y avoir entre un subalterne et sa hiérarchie. Que ça peut modifier vraiment le rapport qu'on a au quotidien avec son entreprise ou sa ou sa structure, quoi.
Sachant qu'on passe plus de temps en entreprise ou au travail qu'avec ses proches, ça peut être important.
Ça pourrait être important. Après, à moi d'arriver à structurer ça pour que ça puisse se généraliser un petit peu. Ce que j'aimerais arriver à faire. Mais voilà, je suis pleine de doutes.
Alors, Alexandre, est-ce que tu pourrais donner l'adresse internet du site ?
Oui, Dolenda, c'est oui. enda.fr. Donc voilà. www.enda.fr.
Alors, on a parlé du fonctionnement, du déroulement, de l'admission. Le coût, c'est 50 euros, j'ai vu.
Oui,
ce...
50 euros de frais de candidature et 3000 euros de frais de session pour l'année d'études.
Oui, mais il faut savoir qu'il y a des bourses et il y a des prises en charge qui sont possibles.
Tout à fait, bien sûr.
Est-ce que tu peux en parler un peu pour ne pas décourager vu le coût?
En fait, 3000 euros, c'est beaucoup et pas beaucoup. Disons, c'est trois fois moins qu'une école d'art ordinaire à Paris.
Et puis,
ça peut être pris en charge par le Pôle emploi, par la Sécurité sociale. Ça dépend. On peut présenter la formation comme une forme de résidence.
Oui.
On a eu même une prise en charge du département culture du département 52. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ils ont pris en charge la formation d'une praticienne à titre de résidence de recherche artistique.
D'accord.
Donc, disons qu'il y a, des facilités qui rendre malgré tout accessible. C'est vrai que 3000 euros pour des artistes dont le plus grand nombre d'artistes sont en situation de précarité.
Extrême
juste
précarité.
Si je peux peut-être donner un chiffre plus ou moins précis.
Oui.
Trois quarts des artistes français, selon le rapport Racine, il me semble commandé par le ministère de la Culture il y a quelques années, vivent en dessous du seuil de pauvreté. En France, au Canada, en Belgique et en Suisse. Et trois quarts, je pense que ce n'est pas le vrai chiffre. Je pense que ça tape dans les 90%.
Ouais.
Parce que c'est le système de l'art visuel qui est fondé sur le capitalisme, l'exclusion et la concurrence. Ce qui fait qu'il y a peut-être 1000 artistes qui gagnent bien leur vie et 1 million qui rament à fond.
Oui.
Voilà. Et donc l'idée de l'art invisuel, c'est de dire que le marché de l'art, enfin, lorsque la nature de l'art change, son modèle économique change.
Voilà. Il faut changer le modèle économique.
Il faut changer le modèle économique, tout à fait, exactement.
Voilà. Ça, c'est très anarchiste, ça.
Oui, tout à fait, exactement, parce que c'est une forme d'émancipation sociale. C'est pas juste l'économie en tant que telle. L'économie, est un facteur qui conditionne positivement ou négativement la subjectivité, le citoyen, l'individu. Donc, quelqu'un qui a suffisamment de moyens économiques, il peut avoir... Donc, disons qu'il est plus libre de penser les choses librement que quelqu'un qui est tenu dans une sorte de prison personnelle, économique, de survie. Voilà,
voilà,
tout à fait.
D'accord.
Et juste peut-être une mention, si tu permets.
Oui.
Par exemple, si l'artiste visuel produit son objet d'art et ensuite c'est les autres qui prennent en charge son économie, les marchands, les collectionneurs, les galeristes, sa médiation, les médiateurs, etc. En fait, l'artiste en visuel, quand il pense sa pratique artistique, il pense son modèle économique, sa stratégie, sa diffusion.
Il garde la main sur tout.
Voilà, exactement.
Il reste indépendant.
C'est disons, la pratique artistique elle-même, mais avec son écosystème.
Parfait. Bien, nous allons faire une pause et nous allons revenir en deuxième partie sur vraiment tout ce qui est normes. On va rentrer plus profondément dans le fonctionnement de l'école. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission consacrée à l'ENDA, l'École Nationale d'Art de Paris, avec Alexandre, Suzanne et André. André?
Oui.
Tu es sur le grid, là.
Superbe.
Voilà. Alors, quand on regarde le site internet attentivement de l'ENDA, on parle de normes académiques, de valeurs articulées sur des changements de paradigme, une école apprenante, enfin beaucoup de termes très techniques. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques comment c'est d'être un artiste tous les jours, même en prenant ton café le matin, en te réveillant. Comment tu fais? Comment tu fonctionnes dans le cadre de ton art?
Ben, en général, on est quand même assez isolé pour beaucoup, hein, je pense.
Ah, d'accord.
Et ce qui permet de peut-être là de venir à l'ENDA, c'est qu'on retrouve quand même une stimulation dans le groupe. Enfin, on fait tous école, quoi. On participe à un projet, mais bon.
L'ENDA brise la solitude de l'artiste.
Là, en tout cas, pour l'instant, oui.
Donc, on peut considérer que vous êtes en résidence, même si c'est à la journée ou à la demi-journée.
Oui, je prolongeais au-delà du concept d'école. À la sortie de l'ENDA, je pense qu'il y aura quand même un suivi et des relations avec Alexandre et que ça dépassera le cadre scolaire, quoi.
D'accord. C'est carrément une prise en charge complète.
Ben, amicale, en tout cas, je sais pas, mais bon, ça dépend. Moi, je me sens pas à l'école.
Alors, moi, j'ai vu sur le site internet la photo des anciens. Une photo d'anciens. Et on sentait que vous étiez un groupe très, très soudé. Est-ce que c'est ça aussi avec les nouveaux, enfin le groupe dans lequel tu officies avec Suzanne?
Oui, c'est le noyau dur, là.
Il n'y en a pas que deux,
bien sûr.
Non, mais vous êtes les deux qui étaient disponibles pour venir en parler et pour donner envie à d'autres de vous rejoindre. Si tu devais donner envie à des auditeurs qui nous écoutent de rejoindre l'ENDA, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben que c'est intéressant parce que ça permet d'appréhender l'art d'une manière différente, quoi, et qui peut poser des questions sur plein de choses, sur l'exposition, une abolition, sur des manières d'agir qui dépassent le statut d'artiste, qui vont prendre des directions en fait aujourd'hui qui sont assez potentielles. On peut pas tout définir.
Oui, je suis normative. Je parle de normes académiques propres. Mais toi, tu n'as pas vraiment de normes. Tu es dans ton, comment dire, je dirais dans ton.
Oui, moi, je pense pas trop vivre avec des normes dans ma pratique, à part peut-être avec des ambiguïtés ou des questionnements par rapport aux images, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Ce qui peut peut-être laisser entendre que j'ai encore une pratique peut-être un peu double d'artiste visuel, invisuel. À définir, parce que le souci dans la production d'un geste dans l'espace public en extérieur, c'est comment il va être transmis ou pas transmis,
ou si c'est une performance qui va être acceptée, voilà. Ou rejetée ou reprise.
L'acceptation, je sais pas trop, puisque dans tous les cas, moi je le fais, peu importe. Mm-hmm. Je me pose pas toutes ces questions-là, c'est plutôt comment le diffuser derrière. Enfin, est-ce que c'est du documentaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'image, une oralité? Est-ce que c'est une méthode cinématographique, etc., quoi? L'exposition ou pas? Enfin.
Waouh! Suzanne, à toi, ma chérie.
Oui. Moi, ce que je trouve très particulier dans l'ENDA, c'est qu'Alexandre nous pousse à définir notre démarche. Dans le sens où, définir notre démarche globale pour notre vie entière, mm-hmm. c'est-à-dire d'essayer de se définir qu'est-ce qui va être ce vers quoi on a envie de tendre pour l'ensemble de notre vie à venir. Et c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas forcément très souvent dans la vie. Mm-hmm. Et il nous pousse aussi à définir notre singularité, c'est-à-dire qu'il va nous dire bah, là, ce que tu proposes, c'est super, mais il y a 300 000 personnes qui le font déjà sur Terre. Qu'est-ce qui va être unique pour toi, chez toi, que tu vas pouvoir développer avec nous, ensemble, parce que là, on est vraiment à travailler en intelligence collective. Donc, on essaye de se pousser les uns les autres pour essayer de trouver qu'est-ce qui nous caractérise particulièrement. Et qu'est-ce à quoi on a envie d'être, ce qu'on a envie d'être vraiment de façon tout à fait particulière. Et donc, d'essayer de trouver des mots pour ça. Donc ça, ça nous a pris, voilà, ça fait 3 mois qu'on y est et on passe beaucoup de temps à faire ça. Comme après, à étudier tous les mouvements d'art invisuel, d'étudier aussi l'histoire de l'art en général.
Et c'est bon de savoir d'où vous venez et vers où vous allez, pour mieux savoir où vous allez.
Voilà, mais ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de particulier d'essayer de se définir dans sa singularité, dans son unicité, en fait, pour trouver comment on met en place des choses avec ça, quoi.
D'accord. Voilà. Donc, Alexandre, c'est pas un directeur d'école, c'est un mentor, si j'ai bien compris.
Un peu, ouais.
Ah, d'accord. Mmh. Bon.
Je sais pas. Bon. En fait, disons que je fais partie. Je vois l'art. La particularité de l'art invisuel, c'est que on peut appliquer l'intelligence collective à l'art. Mmh. Si dans l'art visuel, les artistes se battent entre eux pour gagner un prix pour 9000 perdants, dans l'art invisuel, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, on est dans l'économie de la connaissance, de l'expérience, où quand je donne, je ne perds rien, en fait. Où tout le monde est gagnant d'une manière ou d'une autre. Donc, un peu comme dans les groupes de chercheurs scientifiques, par exemple, qui se mettent à plusieurs sur une problématique, ou les sports collectifs. Donc, disons que moi, je me vois... Oui, je sais pas si en capitaine d'équipe, mais disons que je suis un acteur dans ces dynamiques, où j'impulse des choses, en fait.
D'accord. Alors, il y a marqué que l'école, elle est disruptive. Pourquoi ce terme ?
C'est un terme à la mode pour dire vraiment ce qu'est aussi l'ENDA. C'est disruptif, ça veut dire qui brise un peu la définition standardisée de l'école d'art. Mm-hmm. Par exemple, à l'ENDA, il y a des modules d'économie. Les artistes formulent leur modèle économique, leur stratégie, leur dimension écologique. Chose qui n'existe pas dans une école d'art habituelle, où il n'y a que l'art et que l'art, en fait.
C'est tout ça, c'est...
Voilà, exactement. Et donc, le disruptif, ça veut dire ce qui brise un peu des règles, en quelque sorte.
D'accord.
Et c'est ce qui fait émerger... Je rappelle juste que l'ENDA n'est pas une école d'art, hein. C'est une école de recherche artistique, où tout est possible de faire, sauf ce qui a déjà été fait dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses qui ont été faites dans l'histoire de l'art. Si quelqu'un veut faire un ready-made, on va dire non, ready-made, je suis désolé, c'est 1913, Marcel Duchamp, t'as juste 110 ans de retard. En fait.
Ah bah,
donc, l'idée, en fait, c'est de retrouver l'esprit des artistes qui nous précèdent et d'être à notre tour inventif pour inventer nos propres formes d'art. Mm-hmm. Et même si quelqu'un peut dire, mais c'est trop difficile pour inventer ma forme d'art, mais dans ce cas, ce que je pourrais lui dire, c'est que dans ce cas, ne reproduis pas ce que d'autres artistes ont fait avant toi. Il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux au lieu ne rien faire au lieu de marcher sur des chemins déjà balisés.
Waouh. Eh ben, je m'attendais pas à ça. En lisant, en allant sur le site, je m'attendais pas à tout ça. Waouh. Et donc, il y a aussi, Alexandre, tu as fait marquer sur le site qu'il y a une pédagogie visant l'émancipation. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris.
Oui, parce que l'art n'est pas juste une production d'objets, de formes. C'est d'abord, en fait, l'art, c'est un domaine où tout est possible. Je dirais que c'est même le raccourci entre l'essentiel et l'impossible, en quelque sorte. Et l'art permet, disons, la profession d'artiste, le domaine de l'art permet de trouver des connexions entre sa profession et sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines d'activité. Et donc, lorsqu'on invente, disons, ça ou ses propres formes d'art, ses propres définitions de l'art, mais ça a une incidence sur sa personne. C'est-à-dire que, ce que, disons, les acquis du soi en tant que professionnel bénéficient à soi en tant qu'être humain. Et donc là, il y a émancipation.
D'accord. Alors, Suzanne, André.
Suzanne ou André ?
Les deux, vous allez répondre. Alors, j'ai vu le terme de école liquide. Ça m'a...
C'est une stratégie.
Ah, d'accord.
Un truc comme l'eau, là au-dessus. C'est-à-dire, en fait, je pense que l'idée, c'est pas d'être dogmatique dans les... Enfin, je comprends qu'Alexandre, bien sûr, défende son cheval de bataille, quoi. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est pas non plus de rentrer dedans et de se mettre en opposition. Enfin, on a, par exemple, une amie tunisienne qui veut faire... qui apporte l'art invisuel, et ça va être problématique Enfin, pour elle pense que ça va être problématique en Tunisie. Je pense que si elle est dogmatique, ça va être compliqué, quoi. Mais si elle est plutôt liquide et qu'elle essaie de comprendre les problématiques que ça peut apporter et les enjeux que ça peut ouvrir dans une école d'art d'avoir une section, peut-être pas une section art invisuel, mais de prendre en compte ce genre de pratiques, c'est hyper intéressant. Ça fait que toujours qu'élargir la conscience et la définition de l'art. Et c'est ce qu'on fait sans arrêt, quoi. C'est ce qu'a fait Marcel Duchamp, c'est des déplacements, en fait.
Oui. Oui.
Et l'art invisuel est nécessaire dans ce. Enfin, une nécessité aujourd'hui.
Alors, et surtout, je vois qu'il y a des critères d'évaluation sans notation. Alors, ça, celle qui a eu des problèmes de notes toute sous sa scolarité, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, j'ai 60 ans de retard. Que n'ai-je rencontré des professeurs qui m'ont appliqué cette méthode ? Suzanne, donc tu es évaluée et il n'y a pas de notes.
Ben écoute, pour l'instant,
c'est génial.
Oui, non, on n'a pas de notes. Après, je sais pas comment ça se termine en fait exactement. Enfin, je sais qu'on a quand même à pondre un petit rapport d'activité,
oui.
Enfin petit, peut-être même un peu conséquent, en ayant essayé de dresser notre projet, avec toute la stratégie qu'on peut développer pour le mettre en place. Mais effectivement, je crois que c'est pas sanctionné par une note, enfin, si j'ai bien compris. Quoi.
Non, il y a beaucoup d'autres évaluations.
C'est aussi. Ça.
Alors, Alexandre, tu as fait marquer sur le site que c'était une école horizontale. Qu'est-ce que tu définis par école horizontale ?
École horizontale, c'est un... Bon, déjà, l'ENDA, c'est l'école de la Biennale de Paris. Mmh. Donc, Biennale de Paris, qui elle-même est une institution horizontale. Et donc, qu'est-ce qu'une école horizontale ? C'est une école où les praticiens et les intervenants sont au même niveau. Il n'y a pas de maître et d'élève.
Bien, parfait, ça c'est anarchiste. Ça.
Mmh. Y a voilà, pas de oui, problème. Mais c'est vrai qu'on le ressent tous les jours, en fait. On échange d'égal à égal, en fait, avec Alexandre. Parfois, lui, il nous guide un peu parce qu'il a l'habitude, mais en même temps, c'est pas, on n'est pas dans un rapport...
Autoritaire
oui. Du tout, quoi.
Il fait autorité, mais il n'est pas autoritaire.
Mmh. Bon, je ne sais pas si je fais autorité, j'espère pas, mais... en tout cas, là où il y a horizontalité aussi, école horizontale, ça veut dire où les praticiens eux-mêmes peuvent être intervenants. Peuvent être profs, entre guillemets, à leur tour. Mm-hmm. Par exemple, il y a là des...
Ah ça, Suzanne, pour le chant, il n'y a pas de souci. Elle est parfaite.
Oui, donc, tout à fait. En fait, c'est qu'il y a des praticiens qui font des cours eux-mêmes, qui deviennent profs à leur tour, pendant même leur session.
Mm-hmm. Bah là, donc... André, par exemple, s'est proposé d'intervenir pour nous parler de spiritualité dans l'art. C'est ça, hein ?
Oui, à travers l'image.
À travers l'image. Voilà, et c'est vrai que tout à chacun, moi je me suis proposée pour travailler sur la communication non-verbale aussi.
Et c'est vrai que ça se voit dans ton spectacle, la communication non-verbale, elle est parfaite dans ton spectacle. J'ai adoré, à Publico. Pour ceux qui ont assisté, tu sais que quand j'ai annoncé que tu venais dans l'émission pour faire du Gaston Couté, ceux qui étaient à Publico t'ont écouté. À Noël. Ils étaient très contents. On m'a fait que des compliments. On nous a fait que des compliments, hein, Jean-Mi. Voilà.
Il y a peut-être juste, excuse-moi, une seconde. C'est par exemple Anne Santini, donc Anne, qui est praticienne à l'ENDA, elle a proposé un cours sur la médiation.
Oui.
Donc son idée, sa pratique artistique, c'est être une artiste médiatrice, de réinventer la profession de médiateur, médiatrice aujourd'hui dans les institutions. Et donc on l'a écoutée, tout le monde l'a écoutée, comme en fait elle était intervenante à l'ENDA. Mm-hmm. Or qu'elle est praticienne. Voilà, ça c'est horizontalité. Quand tout le monde est au même niveau, en fait, sans hiérarchie verticale.
On a Elsa qui a proposé aussi de mettre en place un journal de la Biennale, et donc on a eu un cours qu'elle a mené pour mettre en place un journal, étudier un peu comment on pouvait se débrouiller avec
les outils
journalistiques et organiser les choses. Et donc, c'était plus Alexandre qui menait le débat, c'était Elsa qui a d'autres
projets. La Biennale de Paris et les autres biennales, on va en parler dans la dernière partie de l'émission. Ouais. Je voudrais donner la parole à André. La spiritualité dans l'art, ça m'intéresse. Ça.
On s'écarte un peu de l'art invisuel, mais oui, pas tellement que ça,
non,
peut-être.
Non,
mais...
non, justement, par rapport à l'art invisuel, comment tu arrives à faire cette connexion entre les deux ?
Ouf.
Vous êtes artistes tous les deux, donc. Alexandre, il est technique. Vous êtes artiste, donc. C'est pour donner vraiment à voir ce que c'est que l'Inda pour les auditeurs qui découvrent à travers cette émission. Et pour leur donner envie de vous rejoindre.
On va essayer de faire des raccourcis sans être trop grossier, peut-être.
On a le temps.
Mais peut-être que dans l'idée du sacré et des arts visuels, on...
Prends ton temps.
Ouais.
Alors, les arts individuels, déjà.
Avec l'art individuel, déjà, on peut sortir un petit peu. On va retrouver des gens qui vont dans la sociologie, etc. En fait, ça va pas prendre un champ d'action qui recouvre que seulement le milieu artistique, en fait.
D'accord.
On va se retrouver avec des gestes qui vont avoir des intérêts artistiques, etc. Enfin, comme... en fait, si on veut partir du paradigme artistique... Mmh. Et qu'on vient à ce qu'était l'art avant l'art, on appelait ça de la magie en soi. Nous, on appelle ça, dans l'occidental appelle ça les arts premiers.
Oui, je connais.
Mais c'est pas la notion d'art, en fait, elle est spécifique à un regard occidental.
Oui, et les arts premiers ne sont pas au Louvre, par exemple.
Oui.
Et ça, c'est Chris Marker et Alain Resnais qui ont fait un excellent documentaire, Les statues pleurent aussi, et qui expliquaient qu'il y avait un regard colonial. Dans les arts premiers.
Bien sûr.
Donc ça, je vous conseille d'aller...
Oui, c'est très intéressant à exposer, d'ailleurs, qu'on montre
oui,
pas, mais c'est l'envers de pas de l'image, mais de l'institution. Mais disons que peut-être dans l'objet sacré, l'idée, c'est quand même de dématérialiser cet objet, parce qu'il parle de cet ailleurs, de cette autre chose, et que c'est pas en soi l'objectif de l'art invisuel de faire ça, mais c'est qu'en fait, on peut retrouver des... Je crois que je suis en train de me perdre un petit peu.
Non, non. Alors, revenons aux arts premiers. Il faut savoir que l'art pour l'art, c'est quelque chose de très occidental.
Oui,
les arts premiers, c'était plutôt une démarche spirituelle pour les artistes. Et quelque part, tu te reconnectes à ce courant-là.
Moi, je me reconnecte à ça déjà parce qu'en fait, je crois que l'art doit être totalement un outil et doit avoir une fonctionnalité. C'est-à-dire que je ne suis pas là, moi, pour faire de l'art pour me dire que je vais finir dans le salon d'un bourgeois qui va se valoriser auprès de ses amis pour...
Je comprends.
Enfin voilà, pour beaucoup d'artistes qui sont surtout en précarité, c'est que c'est quand même des enjeux de vie assez intenses.
Oui.
Souvent dans des solitudes, bref. Ça, c'est au niveau plutôt social, mais c'est qu'en fait... je pense que dans l'animisme, on peut retrouver l'idée de l'art invisuel.
Oui.
Et,
je confirme.
Et en soi, ça va poser plein de problématiques derrière...
De projection de soi, d'estime de soi, et de comment on gère sa vie, en fait. Tu gères ta vie comme tu produis ton art. Je me trompe?
Oui, moi, ma vie, mon art, c'est peut-être pas si éloigné, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que
c'est fusionnel.
C'est un prolongement de
voilà.
d'une spiritualité et en fait d'un champ d'action social aussi, quoi.
Mm-hmm.
Sans besoin d'être toujours théorisé ou porté en avant de...
Non, non, moi je veux théoriser. Pourquoi ? Parce que je veux donner à voir, si je puis dire, dans une émission de radio, et je veux donner à comprendre aux auditeurs pour qu'ils aillent sur le site inda.fr et qu'ils comprennent la démarche de l'école. Parce que je sens que c'est tellement particulier, cette école, qu'il faut vraiment populariser son fonctionnement.
Oui. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident à expliquer ce que c'est vraiment les arts invisuels, parce que ça opère une espèce de nouveau champ paradigmatique sur la manière d'appréhender l'art. Je pense que moi, j'aime bien l'exemple de Joseph Beuys, parce que aujourd'hui, c'est récupéré dans les institutions comme ses œuvres. Enfin, j'aime pas le mot œuvre, parce que c'est un petit peu une notion un peu moyenâgeuse, mais
c'est production,
là. C'est production avec du feutre, de la graisse, etc. C'était récupéré, mais. Lui, ce qu'il voulait dire, quand même, quelque part, c'était que donc, l'artiste avait un rôle un peu de chaman et de prêtre.
Tout à fait.
Le degré de spiritualité. Mais c'est qu'en fait, derrière ça, il était aussi très lié dans une activité aussi politique. Mais cette activité politique, on le dissocie, alors qu'en fait, c'était clairement un prolongement de sa pratique artistique. Et quand il ouvre le bureau des démocraties actives, je me trompe, non, direct, en 71.
Direct, ouais.
C'est... On peut le voir simplement comme une position politique, mais moi je pense qu'en fait c'est dans une énergie créative qui fait ce genre de projet de proposition. Et par contre c'est pas récupérable et ça rentre pas dans des jeux d'économie.
Mm-hmm.
Et en ça ça rentre pour moi dans des activités d'art invisuel.
D'accord. Bon. Ben, je te remercie,
j'espère,
André.
J'espère que c'était clair.
Ben, écoute, sinon, de toute façon, il y a le podcast. On peut écouter ou réécouter l'émission et envoyer des questions par mail et depuis le site. Et je te les enverrai et tu répondras aux auditeurs. Okay. Donc là, nous allons faire une pause et nous allons parler des biennales en dernière partie.
J'écris souvent sans langue de bois. Maigre et mal rasé avec l'allure d'un malinois. L'oiseau est tombé du toit, quête la plume a pris du poids. Mon rap est en exutoire, c'est mal poli de montrer du doigt. Dans l'ascenseur, la peur, la sueur, le monde est mal de l'intérieur. C'est dur de soigner une tumeur, alors vas-y chante nos cœurs. Y'a 16 balles dans la roulette, on fait appel au beatmaker et met de côté la chansonnette. J'entends le marteau qui frappe, encore un dernier signal. J'ai gardé la soif de vaincre même si tu te déshydrates. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes plantées. Plus rien ne suscite la réussite parce qu'on est toujours tenté. Parce qu'on n'a rien inventé et qu'on met rien de côté. Je vis dans un monde où c'est des bombes qui tombent d'un cocotier. On va pas s'emporter, bref non y'a rien de courtois. Aux enfants de Palestine et pour ce qui reste de Gaza.
On trace, on suit des pistes sûres. On sait que la bitume, on fait l'effort, garde les attitudes. L'État la suit, nous pisse dessus. Mais on s'habitue, on reste fort, on garde les attitudes. On trace, on suit des pistes sûres. On sait que la bitume, on fait l'effort, garde les attitudes. L'État la suit, nous pisse dessus. Mais on s'habitue, on reste fort, on garde les attitudes.
Dans mes déboires, j'écris souvent sans langue de bois. Je cache sous mon doigt de la rage, hélas ça manque de boîte. C'est ma faute, ça déborde depuis tant d'années. Le niveau monte, j'ai fermé les portes, j'ai tout condamné. Alors ça oui, on s'amuse avec les voyelles en riant. El Gazaoui contre les balles qui fusent au Moyen-Orient. Alors c'est la vie, on déborde, donne tel ou tel avis. Qui s'étonne que ça puisse péter dans l'hôtel à Tel Aviv. La paix en Occident a percé peu de gens, qu'on dérime avec accident. Ça percé deux gens, tous ces merdiers font bosser l'avocat. Ouais. C'est plus le gun qui nous enlève les jeunes, mon gros, c'est la coca. On était minots, on pétait des carreaux. On devait s'imaginer que la vie mettait des carreaux. Maintenant la santé dépend du prix des carreaux. Et puis notre liberté peut faire le bruit des barreaux. On trace ensuite des pistes sûres,
des pistes sûres.
On sait que la vie tue, on fait l'effort, regarde les attitudes. L'État la suit, nous pisse dessus,
nous pisse dessus.
Mais on s'habitue, on reste fort, on garde les attitudes. On trace ensuite des pistes sûres,
des pistes sûres.
On sait que la vie tue, on fait l'effort, regarde les attitudes. L'État la suit, nous pisse dessus,
nous pisse dessus.
Mais on s'habitue, on reste fort, on garde les attitudes.
Je suis pas à vendre, comprenez? J'ai pas envie d'être à vendre, je suis pas à vendre. Et j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. C'est pour aller voir, c'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça. C'est ça que j'ai envie. Que ça. Ça s'appelle la liberté.
Chers auditeurs de Podcartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission consacrée à l'ENDA, l'École Nationale d'Art de Paris, et avec André, Suzanne et Alexandre. Et là, nous allons parler des biennales, de la Biennale de Paris et des autres biennales, parce qu'il y en a plusieurs autres. Alexandre, d'après le site internet de la Biennale de Paris, c'est une institution qui met en valeur, prospecte, active et initie tout ce qui peut modifier l'art établi et les notions qui le définissent. C'est tout sauf une identité singulière. J'ai bien... Donc, elle a lieu tous les 2 ans, mais elle dure 2 ans. Donc, en fait, c'est en temps réel. J'ai bien résumé ?
Oui, parfaitement bien, oui. En fait, effectivement, la Biennale... la Biennale est une institution critique de changement. Quand j'avais capté la Biennale de Paris à l'État, donc peut-être que je peux rappeler en 30
oui,
secondes un peu l'historique de la Biennale de Paris, 3e Biennale créée au monde par André Malraux, ministre de la Culture, en 1959, qui a été inaugurée donc le 3 octobre sur le parvis du musée d'art moderne avec une installation de Jean Tanguelli. Mm-hmm. Il y a eu 13 éditions jusqu'en 85, quand Jean Nouvel a pompé tout l'argent, tout le budget pour restaurer la halle de la Villette. Donc la Biennale a fait faillite. Il y a eu, je pense, 10 millions d'euros de pertes, quelque chose dans ce genre. Mmh. Ensuite, Jack Lang, ministre de la Culture, a essayé de la, disons, d'en faire une édition en 87 et finalement, elle a été abandonnée. Donc, elle est tombée dans le domaine public. En 93, Douste Blasi, ministre de la Culture, demande à Alfred Pacman de créer une équipe pour refaire la Biennale de Paris à Paris, parce qu'on disait non, une ville comme Paris ne peut pas ne pas avoir une biennale ou un événement artistique majeur. Donc ils ont dépensé pendant 7 ans de l'argent public entre 93 et 2000, et en 2000, donc moi j'ai capté la biennale en un an. J'ai acheté le nom Biennale de Paris. Mm-hmm. Le ministère n'avait pas pensé à le déposer.
C'est très bien.
J'ai étudié une liste de 2700 artistes du monde entier. Mm-hmm. Et en fait, l'idée de la Biennale de Paris, c'était de dire, en fait, la captation de la Biennale a fait suite, disons, à mon projet de diplôme à l'École des Beaux-Arts à Paris, mm-hmm. quand j'ai présenté mon mariage comme une forme, ma vie comme une forme d'art et mon mariage comme une pratique artistique.
D'accord.
Et donc, après ce clash énorme avec l'école, avec cette école, je me suis dit, en fait, qu'un artiste, comme moi ou comme d'autres, qui propose de nouvelles choses, mais s'ils le font d'une manière solitaire, ils n'ont aucun impact sur l'art. Rien ne changera si on reste isolé, en fait. Et donc, je me suis dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut agir à plusieurs et sous couvert d'institutions. Et donc, c'est pour ça que j'ai capté la Biennale dans l'idée de créer, un contexte où plusieurs artistes, artistes et non-artistes, puissent travailler ensemble et développer des visions de l'art nouvelles et donc agir sous couvert d'institutions. C'était ça. La Biennale de Paris, c'est pas vraiment une biennale, une biennale qui est un peu traditionnelle, une exposition. Voilà. Donc, je passe juste deux, trois détails sur son fonctionnement. Donc, la biennale a lieu tous les deux ans, mais la durée d'une biennale est de deux ans.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une biennale en temps réel, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'une édition de la biennale comprend toute la dynamique de ces deux ans. Ensuite, elle a lieu là où ça se passe. C'est-à-dire que c'est la biennale qui se déplace chez les artistes. C'est les artistes qui décident de leur propre lieu et, conditions de présentation de leur propre pratique. On n'est pas dans le cas de figure d'une biennale traditionnelle, comme la Documenta,
oui.
où c'est les artistes qui se plient
au cadre,
c'est la biennale qui travaille pour les artistes. Donc là, on est dans un cas de figure d'un nouveau type d'institution artistique, où c'est l'institution qui se met au service des artistes.
Ah ben ça change. Et c'est bien mieux pour les artistes.
Oui, absolument, tout à fait. Parce que il faut voir la biennale comme un outil mis au service des pratiques artistiques qui désobéissent au régime normatif de l'art.
Anarchiste. Parfait.
En quelque sorte, oui, tout à fait.
Impeccable. Donc, alors, l'URL, une institution horizontale, critique, et je vois qu'il y a un public naturel, ça veut dire ?
Public naturel, ça veut dire... comme je disais avant, quand la nature de l'art change, son rapport au monde change, mm-hmm. à l'économie, mais aussi à son public.
D'accord.
Par exemple, là, les institutions cherchent à avoir des nouveaux publics.
Oui.
On fait des musées gratuits, etc. Mm-hmm. Mais finalement, on voit que ça marche pas. Parce qu'on a toujours les mêmes configurations, les mêmes systèmes. Des lieux d'art institués, dans des grandes métropoles, etc. Mm-hmm. Enfin, rien ne change,
non.
en quelque sorte.
Et donc, pour une élite.
Voilà, c'est toujours pour une élite. Exactement. Donc, c'est de l'art visuel qui est discriminatoire, en mm-hmm. fait. Donc, quand la nature de l'art change, son rapport au public change. C'est-à-dire que, une pratique artistique, je peux donner l'exemple de, par exemple, Paul Robert, artiste coureur de fond, c'est un artiste qui a fait de la course à pied sa pratique artistique. Où est son public? C'est les personnes qui viennent voir ses courses à pied. Mm-hmm. Mais ils sont pas forcément, c'est pas forcément des personnes qui savent qu'il s'agit d'art.
Mm-hmm.
Donc c'est un public qui fait parfois partie de la pratique artistique elle-même, sans forcément savoir à tel endroit d'art, de telle date à telle date, il y a une forme d'art qui se passe. En fait, c'est parce que les pratiques en visuel se déroulent souvent en dehors des lieux d'art.
D'accord.
Et donc, en dehors des lieux d'art, il n'y a pas de public, disons, spécialisé des spectateurs. Donc il peut y avoir, par exemple, un artiste qui fait de la peinture en bâtiment, son public naturel, c'est les usagers
Du bâtiment.
Lieux qu'il peint. Voilà.
Tout à fait.
Mais ils ne savent pas forcément...
C'est un art.
Voilà,
c'est de
exactement,
l'art.
Tout à fait.
Et c'est ça la véritable fonction de l'art.
Exactement, tout à fait. C'est une des fonctions de l'art, absolument. Oui.
Alors, André, Suzanne, la biennale, qu'est-ce que vous allez faire pour cette biennale? C'est prévu? Je vous pose une colle.
Je ne me suis pas posé la question encore.
Ah bah, tu as 2 ans pour y réfléchir.
Oui.
Alors, Suzanne, toi, tu as peut-être réfléchi à la biennale?
Non, je sais pas encore. Hein. Tu sais, c'est tout nouveau pour nous.
Il faudra y réfléchir et vous reviendrez.
Mais après, on a plein de projets d'aller faire des biennales à droite, à gauche.
Alors ça, Alexandre va l'expliquer, oui. Les autres biennales. Mais il faut réfléchir parce que si il faudra que tu viennes expliquer comment. T'as démarré dans une biennale, entrée pareil.
Du moins, on pourra présenter notre projet de session à la biennale.
Oui. Oui, vous viendrez en parler à mes auditeurs. Mmh. Pas de problème.
En fait, c'est que la Biennale de Paris se met au service des artistes, et donc, mais pas de tous les artistes. Il y a eu des artistes, disons, connus, qui ont été refusés à la Biennale de Paris. On leur a dit, mais allez-y à la Documenta, à la Biennale de Venise, en fait. Et ils étaient très vexés parce qu'ils ont l'habitude d'être dans toutes les biennales. Et donc, la Biennale n'est faite que pour un certain type d'approche, un certain type d'artistes. C'est unique, donc elle s'adresse uniquement aux artistes qui questionnent un peu les limites de l'art. Mm-hmm. Voilà, des artistes qui sont un peu inventifs.
Jeff Koons n'a aucune chance d'être la Biennale de Paris.
Aucune chance, non. Mais il y a d'ailleurs l'équipe de Damien Hirst, en fait, qui voulait introduire Damien Hirst. Je lui ai dit, mais va à la Documenta.
Ah oui.
Ou
c'est
ailleurs,
ça,
en fait.
C'est sa place.
En fait, moi ou d'autres. En fait, c'est ça l'idée. Donc, la Biennale de Paris est un espace de liberté au sein d'une scène artistique contemporaine où tout est à peu près verrouillé. Et où l'art est au service un peu des formes d'art standardisées qui sont au service du marché de l'art, malheureusement.
Et du blanchiment,
tout à fait, exactement. Ouais.
Via les paradis fiscaux.
Oui,
on a tendance à l'oublier. Alors, Alexandre, il y a la Biennale de Paris, mais je vois qu'il y a d'autres biennales sur le site internet, notamment la Biennale en Tunisie. Est-ce que tu peux en parler?
Oui, tout à fait. En fait, la Biennale, elle a adopté le principe de, disons, délocalisation, si on peut dire ça. C'est-à-dire que...
Elle essaime partout dans le monde, en fait.
Oui, tout à fait. Elle peut émerger partout dans le monde. Par exemple, cette idée d'une Biennale de Paris en Tunisie, c'était l'idée de Maria Memni, qui est ancienne praticienne de l'ENDA, et qui nous disait, mais la Tunisie est un pays très pauvre où les jeunes ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de chômage.
Ils sont livrés à eux-mêmes.
Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et le pire, en fait, c'est qu'ils n'ont pas de perspective. Mmh. Et donc, l'idée de Mariem, c'était de mettre la Biennale de Paris, et à travers la Biennale, donc l'art en visuel, au service de ces citoyens et citoyennes pour qu'ils formulent un modèle économique à travers l'art. Mmh. En fait, et donc c'était ça le... Donc là, il y a un peu une fonction sociale et économique de la Biennale. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, qui répare des vélos, ou qui aimerait avoir, je sais pas, un garage de vélo, je sais pas si on dit garage, peut faire une pratique artistique de sa profession et avec un modèle économique à la clé.
Bah, ça peut donner des sculptures à la Tinguili.
Voilà, tout à fait. Mais donc, en fait, c'est que l'art permet d'augmenter sa créativité, de développer, de transformer son potentiel en projet créatif et innovant. Et c'était ça l'idée de cette Biennale de Paris en Tunisie. Mais il y a d'autres biennales, par exemple, en mai 2025 en Pologne, à Toruń. Donc, avec le lieu d'art de la ville de Toruń. Et donc, il y aura un musée qui va être mis à disposition de la Biennale, et donc la Biennale demande à des artistes de voir comment est-ce qu'ils interagissent avec un musée dont ils n'ont pas besoin pour exister. Parce que les pratiques, les pratiques en visuel n'ont pas besoin du système de l'art pour exister, ni du marché de l'art, ni des galeries, ni des musées. Et donc là, l'idée, c'est d'interroger la fonction du musée pour savoir à quoi il sert le musée quand des artistes se sont déjà affranchis de ces conventions. Par exemple, il y a une artiste, Angèle Roard, dont la pratique, c'est d'intervertir art et vie. Mm-hmm. Par exemple, quand on va chez elle, on paye un ticket d'entrée comme un musée.
C'est parfait.
Et quand elle présente sa pratique, en fait, elle fait sa vie dans le lieu d'art. Donc, par exemple, elle peut loger tout simplement dans ce musée le temps de la Biennale.
Oh. Je devrais réfléchir à ça. Faire payer un ticket d'entrée quand on va chez moi. Ah, oh, ça, j'y ai pas pensé. Ah, ben, c'est bien de faire des émissions de radio. Ça vous donne des idées. Il y a des lieux de vie qui sont tellement formidables qu'on devrait payer pour y aller régulièrement. Je connais beaucoup d'amis qui ont des lieux de vie. Je suis prête à payer pour m'y installer.
Mais il y a par exemple une biennale de Paris au Luxembourg hein, qui a été créée par l'artiste Gary Bigot. Et c'était en fait une application. La durée de cette biennale était de 2 ans. Mmh. Et donc son projet, c'était de créer une application où on ouvre, on souffle sur son téléphone ou sur son ordinateur et on voit en temps réel son souffle géolocalisé sur la carte du monde.
Oh.
Et en fait, son idée, c'était de créer une sorte de réseau social humain à travers tous les souffles des gens. Et, donc cette biennale s'intitulait « L'air que je souffle, tu respireras ».
Bien.
En fait, tout le monde peut créer une biennale de Paris à partir du moment où il y a quelque chose à interroger, où il y a à proposer une forme qui fasse sens. Dès qu'une proposition sort du cadre conventionnel de l'art, là, il peut y avoir une Biennale de Paris qui puisse émerger.
Et en plus, le nom a été pris par toi. Donc, tu peux le prêter sans problème, puisque tu l'as déposé.
Oui, sous condition, en fait. S'il y a une forme d'art visuel, non, parce que dans le monde, il y a 300 biennales. En fait. Oui. Le monde de l'art est fait pour des artistes conventionnels. Mm-hmm. Et la Biennale de Paris est un contexte qui propose à des artistes qui veulent tenter d'autres choses, hein, de, non seulement de s'exprimer, mais de faire valoir leur valeur et leur pratique artistique.
Bien.
Et un des soutiens les plus forts, je me permets de le citer, un des soutiens les plus forts de la Biennale de Paris, c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément, c'est Guillaume Olivier-Ville, qui a créé le terme d'agent d'art dans les années 73. Et donc lui, par exemple, il a participé, en fait, il a fait connaître des artistes qui avaient justement des pratiques un peu hors normes. Et donc la Biennale fonctionne avec des soutiens tels que Guillaume Olivier-Ville, Éric Mont-Saint-Jean ou d'autres personnes qui sont très engagées dans la défense des nouvelles formes d'art, si on peut dire ça.
D'accord. Alors, tu vas donner l'adresse du site internet de la Biennale. On peut le récupérer depuis le site de l'INDA, parce qu'il y a les sites amis, dont celui de la Biennale de Paris, et on peut se balader pour regarder ce qui est proposé.
Oui, absolument. Donc, le site, c'est très simple, c'est biennaledeparis.fr.
Voilà. Bien. Alors, je vais donner, Alexandre, si tu le permets, la parole à Suzanne et à André pour une conclusion. D'une phrase, l'INDA, c'est... pour donner envie... D'accord. Suzanne, l'INDA, c'est...
L'INDA, c'est un espace de liberté et de recherche assez étonnant.
Mm-hmm.
Et surtout de rencontres aussi avec des artistes qui ont envie de faire autre chose et qui essayent de se réinventer. Donc, voilà. Bienvenue à ceux qui ont envie de tenter l'expérience.
Bon. Alors, je rappelle l'adresse du site internet enda.fr. Alors, je remercie Jean-Michel pour la technique. Merci Jean-Michel. Sans toi, il n'y aurait pas d'émission. Je vous remercie, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous dis faites attention à vous et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci à Alexandre, merci à Suzanne et à André.
Merci Mariama.
Merci Mariama.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. c'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, dis-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage.
Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de cueille, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen.
que trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida, ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando.
Yeah. story about the rock and line.
Right on, right on.
Well, the rock and roll line is a mighty good road. Rock and roll line is a road to ride. Rock and roll line is a mighty good road. If you want to ride, better ride it like a fan. Get a ticket out of fish and try to rock and roll line. Let me ride, let me roll. Smooth like I'm the mystery.
Yeah. llorando va la terremoto, se mató su niña en moto.
Si vos crees que está mal,
dime tú quién va a cobrar.
Oye, panda, ¿qué pasa por la calle?
La huelga en el puerto ya se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado. Peruano, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré.
Y si te engañas colombiano,
de un balazo lo mataré.
¿Qué pasa por la calle?
Nada, no pasa nada.
Oh, Guayaquil City. Ya se lo han cargado. Oh, oh, oh. Guayaquil City. Oh, oh, oh. Guayaquil City.
Yo sueño peruano, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré.
Y si te engañas colombiano,
de un balazo lo mataré.
Hey, hey. 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Jo. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'envie, ça va plus.
Faut tous prendre ce temps, mais pour la prendre des décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez, allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, tu dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale, tu es dans la ville, non? Il sert à rien de tout.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette pour une métaphore, non?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. Enfin, moi, je suis... Ça, c'est une métaphore.
C'est une que tu allais te cacher partout devant la race. T'es excessivement énervé.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau gars de vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vois les dingues, je les soigne.
Vous allez faire une ordonnance.
Et une scellée.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 fois de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On a coupé ça dans le coffre autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça porte une tour.
Tu marines dans le pinard comme des scuds dans l'eau.
Ton sang plus globule, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, fever.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
On te sauve, on te sauve, mais on prend des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! On fait pas le malin!
Bonsoir.